philosophie de l'art par le père Philippe Saint-Joseph, le 16 janvier 85.
Quelques mots encore sur l'aspect de la contemplation. Je vous disais donc qu'il fallait essayer de comprendre ces divers types, ces diverses modalités de contemplation, et ensuite préciser la ratio contemplationis, c'est-à-dire essayer de saisir ce qu'est la contemplation à partir de ces modes différents. Et chaque fois, comprendre le terme de la contemplation et le métaxu, le moyen par lequel nous atteignons. Donc, nous avions vu la contemplation esthétique, en quelque sorte, c'est toujours la qualité mise en pleine lumière qui nous fait atteindre en dernier lieu la qualité elle-même. C'est ça qui est très curieux. Mais la qualité dans sa plénitude, dans sa totalité. Alors, on pourrait dire l'univers, si vous voulez, vu d'une façon qualitative. Alors cet univers, c'est une partie de l'univers, c'est la figure de l'homme, c'est ce qu'on veut. Toujours sous le point de vue de la qualité sensible. Quand il s'agit de la contemplation métaphysique, ce qui est en dernier lieu atteint, c'est le Créateur, et il est atteint par l'intermédiaire de l'effet le plus parfait. Et l'effet le plus parfait du Créateur, c'est l'ami, l'amour d'amitié par lequel j'atteins l'ami, et aussi, d'une certaine manière, ce par quoi je contemple. Vous voyez, la contemplation étant l'acte le plus parfait, sert en quelque sorte d'un intermédiaire pour atteindre en dernier lieu Dieu comme créateur. Quand il s'agit de la théologie, de la doctrina sacra, il y a le point de vue de la foi. Alors c'est la parole de Dieu et la charité. Mais avant tout, la parole de Dieu, je dirais plutôt la parole de Dieu et l'ordre des mystères révélés. Et quand il s'agit de la contemplation mystique, c'est l'amour de l'Esprit Saint communiqué. C'est l'amour divin en tant que participé. Vous voyez, ce matin, je vous parlais de laisser participer, de la bonté participer, et dans l'ordre surnaturel, on peut dire, il y a l'amour divin participé, l'agapé, qui sert de moyen terme. C'est à travers l'amour que je sais, que je contemple Dieu. Je contemple Dieu à travers l'amour qu'il me communique. Ça, c'est la contemplation mystique, puisque je ne vois pas Dieu directement, mais à travers l'amour que Dieu me communique, je contemple. Et la théologie, c'est à travers la parole de Dieu et l'ordre des mystères. C'est une contemplation acquise. Et l'ordre des mystères me permet de pénétrer plus avant dans le mystère ultime et dernier, la très sainte Trinité. Parce que ce qui est contemplé en dernier lieu, c'est toujours la très sainte Trinité. Quand il s'agit de la contemplation théologique, contemplation acquise, et de la contemplation infuse, c'est encore le mystère de la très sainte Trinité, mais à travers l'amour communiqué. À travers l'amour communiqué par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Et à travers cet amour communiqué, je contemple le mystère de la très sainte Trinité. Cet amour ou cette lumière, vous voyez, la parole entend qu'elle est lumière, lumière participée, les deux grandes participations, la lumière et l'amour. Je ne vais pas plus loin, c'est simplement pour indiquer que, de fait, lorsqu'il s'agit de l'expérience artistique, esthétique, cette expérience est en continuité avec la contemplation. Et c'est ce qui caractérise cette expérience esthétique. Vous voyez, quand il s'agit de la contemplation de philosophie première, l'expérience ne s'achève pas en contemplation. C'est tout à fait propre, et ça je crois que c'est très important à saisir. c'est tout à fait propre à l'expérience esthétique de conduire à la contemplation. Il y a une continuité. Il y a une continuité entre l'expérience artistique et la contemplation artistique. Parce que c'est le même métaxu. Mais il y a une durée et une profondeur plus grande. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire, si vous voulez, que l'expérience artistique touche la qualité existante d'une réalité, la contemplation va plus loin. Alors ça, ce serait très difficile à bien préciser. Quel est le contenu dernier? L'intermédiaire va très bien. Le contenu dernier, quand c'est la figure humaine, quand c'est la figure du monde, le paysage, vous voyez, on pourrait dire qu'il y a une certaine contemplation sur le point de vue de la figure humaine, sur le point de vue de ce qu'il y a de dernier, l'harmonie du monde, l'harmonie des choses que nous pouvons saisir, du mouvement, et ainsi de suite. Mais il y a une continuité entre l'expérience artistique et la contemplation artistique, tandis qu'il n'y a pas de continuité entre l'expérience philosophique et la contemplation philosophique. Il y a toute une démarche. La saisie des principes, donc l'induction, puis la découverte de l'être premier de Dieu. Parce que je ne contemple jamais les principes. Hein. Je ne contemple jamais les principes. La philosophie, la contemplation philosophique contemple une réalité. Je ne peux contempler qu'une réalité existante, même au point de vue art. Quand il s'agit de la contemplation d'une œuvre, on voit très bien. Quand il s'agit de la contemplation de la nature, c'est en tant qu'œuvre aussi qui s'impose à moi. Mais je ne contemple qu'une réalité existante. Je ne contemple pas un principe, une forme. La réalité existante qu'on contemple au point de vue philosophie première, c'est Dieu créateur. La réalité que je contemple au niveau de la théologie doctrina sacra, donc d'une théologie à base de foi, c'est Dieu se révélant. Et lorsqu'il s'agit de la théologie mystique, c'est Dieu se donnant, puisque c'est l'amour de l'Esprit Saint. Nous allons maintenant, si vous voulez, entrer dans un aspect qui me semble très important à saisir au point de vue philosophique, le fameux problème de l'inspiration. Alors là, j'aimerais avoir votre coopération, parce que l'inspiration, c'est quand même quelque chose de très très important. Vous voyez la parole de la poétique d'Aristote, l'art de la poésie appartient soit à des hommes bien doués, soit à des hommes inspirés. Alors, c'est tout un problème très intéressant de l'inspiration. D'abord, c'est intéressant de voir que les philosophes n'ont pas tellement parlé de l'inspiration. Les artistes, les poètes, surtout les poètes, en parle beaucoup plus. Alors, si vous voulez, nous allons faire d'abord une petite étude topique qui demanderait d'être complétée. Alors, faites-la vous-même, parce que je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de mettre un chantier philosophique sur l'inspiration. Et vous comprenez que c'est doublement important pour nous. Parce que quand on parle de l'inspiration divine, au point de vue théologique, si je ne sais pas ce que c'est que l'inspiration poétique, je ne peux pas faire la théologie de l'inspiration. Alors, c'est de fait ce qui est arrivé au point de vue scolastique. C'est qu'on a répété, et on a laissé l'art de côté. La philosophie de l'art ne s'est pas du tout développée. On a laissé l'art de côté. Alors, par le fait même, quand vous faites la théologie de l'inspiration, vous n'avez plus aucune expérience humaine. Alors votre théologie d'inspiration, c'est très court. C'est qui explique comment les exégètes d'aujourd'hui oublient complètement la théologie de l'inspiration. La théologie de l'inspiration est mise complètement à côté. Oui, on peut relire le traité de saint Thomas, c'est très bien de relire le traité de saint Thomas, mais il faut que ce soit vivant une théologie. Et donc il faut que ce soit actuel. Or, la théologie de l'inspiration ne peut être actuelle que dans la mesure où vous avez vous-même réfléchi sur le problème de l'inspiration, au plan philosophique. Alors, il y a des domaines où l'inspiration est particulièrement forte. Essayons d'abord de préciser ça, si vous voulez. Quels sont les domaines dans lesquels on pourrait parler d'inspiration, indépendamment de l'inspiration surnaturelle, hein? Alors, peut-on parler d'inspiration au niveau philosophique? Je ne vais pas résoudre le problème, mais je veux vous le poser. Peut-on parler d'inspiration au niveau proprement philosophique? Platon dit, cette fameuse phrase, les philosophes, les poètes, les mystiques ont quelque chose de commun. Ce sont des hommes inspirés. Donc ils considèrent que les philosophes sont des hommes inspirés, pas les professeurs de philosophie, mais les philosophes sont des hommes inspirés, qu'il ne peut pas y avoir de vraie philosophie sans inspiration. Ce que je crois bien que la philosophie implique une certaine inspiration. Ça explique comment tous ne sont pas philosophes. Ça me frappe beaucoup. C'est une inspiration qui est plus proche de l'intelligence habituelle, c'est pas l'intuition, c'est autre chose. L'inspiration, c'est un souffle. L'intuition, c'est à l'intérieur de l'inspiration, de l'intuition. Nous essaierons de voir ça. Premièrement, je ne vais pas très vite, hein, l'inspiration dans le domaine de la connaissance philosophique. Il y a des philosophes qui sont plus ou moins inspirés. On pourrait dire, vous voyez, que Bergson, parce qu'il s'agit de parler de Bergson, Bergson, c'est une philosophie inspirée. Inspirée pas surnaturellement, vous comprenez bien, d'une inspiration. Pourquoi? C'est une philosophie qui repose essentiellement sur l'intuition. Or, je crois que quand il s'agit d'une intuition dans le domaine de la connaissance philosophique, il y a nécessairement une certaine inspiration. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre philosophie inspirée? Platon. Je crois que Platon est une philosophie très inspirée. Est-ce que Descartes est une philosophie inspirée? Est-ce que Kant est une philosophie inspirée? Est-ce que Hegel est une philosophie inspirée? Plus facilement Hegel. Beaucoup plus. C'est intéressant de se poser. Y a-t-il, posez-vous la question, y a-t-il une inspiration dans le domaine de la connaissance philosophique? C'est pas commode à répondre. Parce qu'il y aurait donc une certaine inspiration. La connaissance philosophique n'est pas une inspiration, mais il y aurait comme quelque chose qui permettrait un certain développement de la philosophie. Ça, je crois que c'est vrai. La philosophie, il y a quelque chose qui demande un peu d'inspiration. Deuxièmement, l'inspiration dans le domaine de la connaissance affective. Par rapport à la vie, c'est une certaine inspiration. Il y a des intuitions, ça c'est sûr. Il y a des intuitions affectives. Personne ne peut le nier. Alors, y a-t-il une certaine inspiration du côté affectif, dont le contenu est l'intuition? Vous voyez, c'est ça la très grosse difficulté. C'est pour ça que je ne peux pas le traiter maintenant. On y reviendra au terme. Je pose des questions pour lesquelles vous puissiez réfléchir. Y a-t-il une inspiration donc, au niveau affectif? Une inspiration du niveau de la connaissance mathématique. Il y a une intuition mathématique. Ça, sûrement. Regardez Poincaré. Poincaré dit ça admirablement. C'est un grand matheux. Il y a deux espèces de mathématiciens. Il y a les mathématiciens purement logiques et il y a des mathématiciens intuitifs. Ça, c'est très très net. Des mathématiciens intuitifs qui justement sont beaucoup plus musiciens, poétiques, mystiques. souviens, c'était quand j'étais en Grèce la première fois. J'avais pris contact avec les professeurs d'Athènes et tout de suite, un matheux, professeur de mathématiques, me dit « Ah, mon père, je voudrais bien faire une promenade avec vous. » Très bien, j'étais très heureux parce qu'il était du cru. Alors, il faut faire cette promenade à telle heure pour avoir la vision sur Athènes à telle heure, en dehors. On ira chez un vieux monastère en ruine qui a été construit à telle heure. Tout était précisé merveilleusement pour avoir la lumière la plus belle au bon moment. Un matheux merveilleux. On aurait cru un pythagoricien revenu sur Terre. Et vraiment un pythagoricien, absolument. C'était très étonnant, c'était merveilleux. Cette promenade a été extraordinaire. Puis alors il m'a dit, merci, c'est rare de rencontrer une âme. Oui, pythagoricien. J'ai trouvé ça très étonnant. Alors là, je crois que ces matheux-là sont inspirés. Et il y a une espèce d'intuition. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une aspiration qui est là, présente. Je dis, il y a deux catégories de matheux. Ça, c'est très, très net. Comme des philosophes, du reste, au fond. Alors, quatrièmement, l'inspiration au niveau esthétique. Bon, posons-nous ces questions. Je ne veux pas les regarder maintenant. J'y reviendrai. Parmi toutes ces inspirations, quelle est l'inspiration numéro 1? C'est l'inspiration esthétique, poétique. Ça, je crois. C'est le domaine où l'inspiration est la plus nette et la plus précise. C'est donc celle-là que nous allons étudier, vous voyez, pour regarder ensuite si on peut parler de ces diverses modalités d'inspiration. Parce que ce n'est pas si commode que ça de voir s'il y a une inspiration dans le domaine connaissance philosophique. Connaissance affective, on pourrait encore le dire plus facilement. Connaissance mathématique, c'est pas commode non plus à déterminer. Puis alors, l'inspiration, simplement, l'inspiration au niveau de l'écriture. Une inspiration qui fait appel à une révélation. Alors vous l'avez, le poème de Parménide, au point de vue philosophique. Le poème de Parménide, c'est l'exemple très net d'une inspiration qui fait appel à quelque chose qui est au-delà de la mesure normale de l'homme, donc qui est de l'ordre surnaturel. Mais je crois qu'on peut, évidemment ça c'est au niveau de la foi, mais Parménide le met au niveau philosophique, donc je pourrais peut-être le mettre au niveau philosophique là, en mettant les deux en parallèle. Le poème de Parménide. Je vous ai dit, il faut lire le poème de Parménide, et si vous n'avez pas compris, comprendrez comment dans ce poème il y a quand même une inspiration. Est-ce que la philosophie de Heidegger est une philosophie qui implique une inspiration? On peut se poser la question. Donc, c'est l'inspiration au niveau poétique qui sûrement est la plus proche et la plus explicite. Alors, regardons ce que les philosophes ont pu dire sur l'inspiration. Je vous dis, il n'y a pas tellement de philosophes qui ont regardé ça. Pour Platon, l'inspiration poétique est d'essence divine. Elle apparente le poète au prophète et au devin. Vous voyez ça dans l'Apologie de Socrate, 22c. Donc, elle est d'essence divine. Il dit ça en tant que philosophe. Donc, dans l'inspiration, il y a Tikkun Shiknod, quelque chose que je ne peux pas commander. C'est vrai, je ne peux pas mettre dans un état d'inspiration quand je veux. Je sais bien, je peux prendre certains produits qui me mettront facilement dans un état d'inspiration. On va dire, avec ça, ça m'aidera. Mais vous voyez bien, c'est de l'erzas, hein. C'est pas vraiment l'inspiration. Et c'est pour ça que les poètes parleront d'état de grâce. Parce que ça vous tombe dessus et vous ne pouvez pas le commander. Vous voyez, si vous pouvez commander, hein, ce serait magnifique. Il y a des gens qui ne font des cours que quand ils sont dans un état d'inspiration. Non. Tant qu'ils ne sont pas dans un état d'inspiration, non, 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 sûrement pas. Le poète peut écrire uniquement sous l'état d'inspiration, c'est vrai. Mais un cours commandé à telle heure. D'essence divine, elle apparente le poète au prophète ou au devin. Sous le coup de l'inspiration, le poète est hors de lui, c'est ce que dit Platon, hors de lui, et n'a plus sa raison. C'est dans Ion. Le petit dialogue de Ion, c'est le dialogue de l'inspiration. C'est un petit dialogue merveilleux. Il faut lire Ion, c'est très facile à lire et c'est très intéressant. C'est chose légère que le poète, ailé, sacré. Il n'est pas en état de créer avant d'être inspiré par un dieu. C'est tellement beau ça. Il n'est pas en état de créer, avant d'être inspiré par un dieu. Il faut qu'il soit inspiré par un dieu pour pouvoir créer. La création dépasse. Et donc, l'inspiration le met hors de lui et n'a plus sa raison. C'est une extase. Il délire. L'inspiration donne le délire. On est au-delà de ce que représente la prudence habituelle. C'est dans le Phèdre, ça. 255. L'inspiration lui permet de saisir les mystères, de pénétrer dans un domaine qui autrement demeurerait fermé. C'est un domaine énigmatique dans lequel je vais pénétrer. Donc, ça voudrait dire que toute inspiration implique une certaine révélation. Si je prends Platon, hein, puisque ça me met hors de moi et ça me permet de saisir des réalités que je ne saisirais pas autrement. Elle lui donne un pouvoir créateur et si son âme est délicate et pure, il réalise en cet état de beaux poèmes vraiment divins, surhumains. Et c'est encore Ion 534 C, 537 AC. C. Donc on est dans un état euphorique, mais plus qu'euphorique. C'est plus que ça, c'est surhumain. L'inspiration qui vient des muses et des dieux prend possession du poète et lui permet d'être interprète des dieux. Alors, il est un herméneute. Pour pouvoir, ça c'est aussi une chose extrêmement intéressante, pour pouvoir interpréter, faire de l'herméneutique. Pour pouvoir interpréter, il faut être inspiré. Et il faut autant que possible rejoindre l'inspiration de celui qui a écrit le texte. Autrement, vous n'êtes pas un véritable interprète. Oui, en musique, c'est évident qu'il y a quelque chose de semblable. Un aède chez les Grecs. L'aède, c'était celui qui chantait et qui communiquait ce qu'il portait en lui, la récitation d'un poème. Il faut être inspiré pour pouvoir le dire. Donc, il permet d'être interprète des dieux. Par là même, l'inspiration, elle devient communicable aux hommes. Il y a quelque chose qui se communique au cœur et à l'intelligence. Grâce à cette communication se forme alors une chaîne d'inspirés, c'est Platon qui dit ça. L'inspiration occupe dans la philosophie de Platon une place primordiale. Alors, chez Aristote, toujours intéressant de voir ça. Qu'est-ce qu'Aristote a retenu de cette philosophie de l'inspiration? Le premier philosophe de l'inspiration, c'est Platon. Quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie platonienne, à l'inspiration, il y a là un petit travail très intéressant à faire. Parce que c'est une manière d'entrer dans Platon. Et ce serait très intéressant de pouvoir relever tous les textes de Platon, je ne crois pas que ça a été fait, de relever tous les textes de Platon en les interprétant, pas simplement, mais en essayant de les interpréter pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'inspiration chez Platon et quelle est la place de l'inspiration dans la philosophie platonicienne. dans la philosophie de Platon. Je crois qu'elle est au cœur de la philosophie. Platon sait quand même, c'est un inspiré. Aristote parle très peu de l'inspiration. Il parle de l'expérience. C'est deux pôles, hein, c'est intéressant, c'est deux pôles. Dans la rhétorique, il en parle plusieurs fois. Il en parle également dans le traité de la divination par les songes. C'est un petit traité très intéressant. Comment, quand on se remet, quand on ne réfléchit plus, on dort, on est remis à des réalités qui nous dépassent. On est sous la mouvance des esprits. Et par le fait même, il y a une divination qui se fait par les songes, une révélation. Et dans la poétique, il souligne que la poésie exige des âmes bien douées, capables d'enthousiasme et capables d'être inspirées. Mais c'est sûr que la philosophie d'Aristote ne part pas de l'inspiration. C'est une philosophie de l'expérience. Vous voyez, c'est toujours la très grosse question. Hein. Une philosophie qui part de l'inspiration peut-elle être pour tous? Une philosophie qui part de l'expérience, c'est une philosophie démocratique. Tandis qu'une philosophie qui part de l'inspiration, elle est aristocratique. Parce que celui qui n'a pas d'inspiration. Dans saint Thomas, l'inspiration, il y a un traité de l'inspiration pour le prophète. Et donc le traité de l'inspiration est lié à la prophétie et c'est lié évidemment au mystère de la foi. Mais le prophète, comme prophète, reçoit l'inspiration d'une certaine manière au-delà de sa foi. Puisque à la racine de la foi, il y a l'inspiration. S'il n'y avait pas l'inspiration, la foi pourrait venir directement de Dieu. Mais si la foi est liée à la parole de Dieu, la foi est liée à l'inspiration et à la révélation. Et d'une certaine manière, l'inspiration et la révélation sont antérieures à la foi, sont source de la parole de Dieu. Dans l'hégélianisme, pour Hegel, l'inspiration est constituée par l'activité de la fantasia, donc de l'imagination, et le besoin d'exécution, d'où résulte un penchant profond qui pousse l'artiste à s'extérioriser, à s'exprimer presque malgré lui. La véritable inspiration, dit Hegel, mais c'est pas tout à fait le même langage que Platon, hein. Et c'est intéressant à ce point de vue-là. L'inspiration consiste à être obsédé par la chose, à y être présente, à ne plus connaître de repos tant qu'elle n'a pas reçu une forme artistique achevée. C'est dans son esthétique. Ça, je vous recommande beaucoup, ceux qui veulent entrer un peu dans Hegel, je crois que la porte d'entrée, c'est l'esthétique. C'est intéressant du reste esthétique de Hegel, c'est pas difficile, mais c'est très intéressant. Également, on pourrait prendre la parole de Dufresne qui a écrit sur le point de vue de la phénoménologie de l'expérience esthétique. Dufresne souligne, c'est en premier lieu ce sentiment qu'il y a quelque chose à dire, et qui ne peut être dit que par lui, que son œuvre, si indigne qu'il en soit, est nécessaire. Donc, l'inspiration pousse à la réalisation, pour Hegel et pour Dufresne. Tandis qu'au contraire, l'inspiration chez Platon, c'est le contact avec l'univers qui nous dépasse, c'est-à-dire le divin. Une inspiration qui laisse à l'artiste la liberté de se mettre en avant et de se faire valoir, au lieu d'être l'organe de l'activité créatrice toute concentrée sur la chose, est une mauvaise inspiration. C'est dans toujours l'esthétique de Hegel. C'est très curieux, et ça c'est très intéressant, parce que ça montre bien ce qu'est l'inspiration pour Hegel. C'est consiste à être obsédé par la chose, à y être présente, à ne plus connaître de repos tant qu'elle n'a pas reçu une forme artistique achevée. Je me souviens de cette petite japonaise que j'avais connue à Paris, qui était inspirée d'une façon très étonnante. Son père était japonais, sa mère était française, sa mère était musicienne, elle était très musicienne, et son père était peintre. Et la gosse, qui avait le haut de la tête japonais, le bas de la tête français, était très inspirée, elle faisait des vitraux étonnants comme ça. Et ça m'intéressait toujours beaucoup, elle avait 10 ans. Et alors de temps en temps, elle disait que, par exemple, quand elle avait été, c'est le cas, c'est ça s'est passé, elle avait vu pendant l'après-midi, en se promenant, dans une forêt en feu. C'est impressionnant. Alors la nuit, subitement, elle a été réveillée. Elle s'est précipitée dans son atelier, puis elle a fait un travail étonnant. Et c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas. Vous voyez, c'est là où ce que dit Hegel est vrai. C'est que c'est une force qui demande une réalisation. Et tant qu'on n'a pas réalisé, on n'est pas en repos, on ne peut pas. Très important de ne pas refouler une inspiration qui vous demande de réaliser la chose. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de juste. C'est dans ce sens-là que mettre la main à la pâte maintient un certain réalisme et fait que c'est quelque chose de bon, il y a quelque chose qui sort. Autrement, on garde tout sur soi. Et au bout d'un certain temps, ça éclate, ça ne va plus, ça ne peut plus. Une inspiration qui laisse à l'artiste la liberté de se mettre en avant et de se faire valoir, au lieu d'être l'organe de l'activité créatrice, toute concentrée sur la réalité à faire, est une mauvaise inspiration. Donc, la bonne inspiration, c'est celle qui va jusqu'à l'exécution, consiste à être obsédé par la chose, à y être présent, à ne pas connaître de repos, tant qu'elle n'a pas reçu une forme artistique achevée. Sous le souffle de l'inspiration, l'artiste ne doit plus être que la forme façonnant le contenu qui s'est emparé de lui. Il est possédé. Il devient comme un instrument de quelque chose qui le dépasse complètement. C'est de nouveau comme un délire, mais non pas un délire divin à la manière de Platon, que Nietzsche conçoit l'inspiration. Ah, Nietzsche aussi, c'est un philosophe inspiré. Très inspiré. C'est peut-être même le plus inspiré de tous. Nietzsche conçoit l'inspiration ne doutant pas qu'il faille remonter à des milliers d'années en arrière pour trouver quelqu'un qui ait le droit de dire de cette expérience « c'est aussi la mienne ». Vous voyez ? C'est de nouveau un délire que Nietzsche, qui nous permet que Nietzsche conçoit l'inspiration. Il conçoit l'inspiration comme un délire. Alors je vous lis ce passage particulièrement significatif dans Ecce Homo de Nietzsche. Quelqu'un a-t-il, en cette fin du XIXe siècle, la notion claire de ce que les poètes, aux grandes époques de l'humanité, appelaient l'inspiration ? Si nul ne le sait, je vais vous l'expliquer ici. C'est charmant, hein, c'est délicieux. J'ai senti Socrate avant, pour bien montrer. Pour peu que l'on ait gardé en soi la moindre parcelle de superstition. On ne saurait en vérité se défendre de l'idée qu'on n'est que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissance supérieure. Il y a un petit peu, quelques petites parcelles de superstition. Hein. Le mot « révélation », entendu dans ce sens, que tout à coup, quelque chose se révèle à notre vue, ou à notre ouïe, avec une indicible précision, une ineffable délicatesse, quelque chose qui nous ébranle, nous bouleverse, jusqu'au plus intime de notre être, et la simple expression de l'exacte réalité. Quelque chose qui vous prend, qui vous saisit, qui vous traverse, on est possédé. On entend, on ne cherche pas. On prend, on ne se demande pas qui donne. Tel un éclair, la pensée jaillit soudain, avec une nécessité absolue, sans hésitation ni recherche. Avec une nécessité absolue. C'est toujours ça. Quelque chose qui s'impose d'une manière telle qu'il n'y a pas à discuter. Donc, un éclair. La pensée jaillit soudain avec une nécessité absolue, sans hésitation ni recherche. Je n'ai jamais eu à faire un choix. C'est Nietzsche qui dit ça. Vous savez, Claudel disait ça admirablement. Hein. Je l'ai connu un tout petit peu grâce à des amis qu'il connaissait très bien. Alors, Claudel, racontant son inspiration, j'ouvre le robinet une heure par jour. Il a dit ça, mais j'ai entendu. J'ouvre le robinet une heure par jour, puis je le ferme. Et le lendemain matin, j'ouvre de nouveau le robinet. Je continue. Je ne relis jamais ce que j'ai écrit la veille. Alors ça fait comprendre Claudel, n'est-ce pas ? C'était merveilleux, la description qu'il donnait pour l'inspiration. J'ouvre le robinet. Mais toute la journée, vous comprenez, c'était pour que le robinet coule pendant une heure. Alors ça, il ne le disait pas, mais c'était vrai pour lui. Tout était polarisé vers ça. Il écrira une heure par jour. Il s'y mettra. Apparemment, Claudel, c'est un bœuf. Hein. Un bœuf baptisé. Alors, ça coule dessus. On ne sait pas trop où ça va après, mais ça coule sur la peau. Parce que c'est comme ça, c'était un homme qui était une force. C'était pas du tout l'être sensible, profondément. Il vous recevait très gentiment quand il vous connaissait, mais au bout d'un certain temps, on sentait très bien qu'on l'assommait, alors il fallait partir. Il devait ouvrir le robinet. Je n'ai jamais eu à faire un choix. C'est un ravissement où notre âme, démesurément tendue, se soulage parfois par un torrent de larmes, où nos pas, sans que nous le voulions, tantôt se précipitent, tantôt se ralentissent. C'est une extase qui nous ravit entièrement à nous-mêmes en nous laissant la perception distincte de mille frissons délicats qui nous font vibrer tout entier jusqu'au bout des orteils. C'est une plénitude de bonheur où l'extrême souffrance et l'horreur ne sont plus éprouvées. Comme un contraste, et comme partie intégrante et indispensable, comme une nuance nécessaire au sein de cet océan de lumière. C'est une plénitude de bonheur où l'extrême souffrance et l'horreur ne sont plus éprouvées comme un contraste, mais comme partie intégrante et indispensable, comme une nuance nécessaire au sein de cet océan de lumière. C'est un instinct du rythme qui embrasse tout un monde de formes, la grandeur, le besoin d'un rythme ample et presque la mesure de la puissance de l'inspiration. Et comme une sorte de compensation à un excès d'oppression et de tension. Tout cela se passe sans que notre liberté y ait aucune part. On est possédé. Tout cela se passe sans que notre liberté y ait aucune part. Et pourtant, nous sommes entraînés comme dans un tourbillon par un sentiment plein d'ivresse, de liberté, de souveraineté, de toute puissance, de divinité. Très intéressant d'entendre ça de Nietzsche. C'est extraordinaire. Et c'est vrai, vous avez bien la phrase de Nietzsche qui est si forte qu'il ne faut jamais l'oublier. Non ? Si Dieu existe, il est le créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. Oui, alors, c'est exactement ce qu'il veut dire ici. Hein. Quand il dit, comme un tourbillon, par un sentiment plein d'ivresse, de liberté, de souveraineté, de toute puissance et de divinité, saisi par cette création artistique. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est ce caractère de nécessité par quoi s'impose l'image, la métaphore. On perd toute notion de ce qui est image, métaphore. Il semble que ce soit toujours l'expression la plus naturelle, la plus juste, la plus simple qui s'offre à nous. On dirait vraiment que, selon la parole de Zarathoustra, les choses elles-mêmes viennent à nous désireuses de devenir symboles. Ça, c'est très, très beau. Les choses elles-mêmes viennent à nous désireuse de devenir symbole. Il y a une métamorphose dans l'inspiration. Et tout devient un champ symbolique. Et tout est symbolique. C'est-à-dire dans un caractère très particulier. Et toutes les choses accourent avec des caresses empressées pour trouver place dans ton discours. Et elles te sourient flatteuses. Car elles veulent voler portées par toi. Sur l'aile de chaque symbole, tu voles vers chaque vérité. Pour toi s'ouvrent d'eux-mêmes tous les trésors du Verbe. Tout être veut devenir Verbe. La réminiscence, hein? Tout être veut devenir Verbe. Tout devenir veut apprendre de toi à parler. Telle est mon expérience de l'inspiration. Ben c'est beau. Il y a une espèce de grandeur là-dedans et de force. Et ça dit bien les choses. Et en même temps, ce langage assez précis de Nietzsche, c'est un philosophe. Et un philosophe très inspiré. Un philosophe poète. Plus poète que philosophe. Vous savez les derniers mots de Nietzsche, il ne faut pas l'oublier. Dernier mot avant de devenir fou. Il a terminé dans la folie. Il a mis art, art, art. Pour lui, c'était tout. La création artistique, c'était tout. C'était la définition de l'homme, c'était tout. Alors, on comprend très bien la place de l'inspiration, vous voyez. Ce petit déclic qui permet de réaliser quelque chose qui dépasse les mesures communes et qui met dans une situation spéciale. Alors, si vous avez d'autres textes hein, de philosophes sur l'inspiration, vous me donnerez, ça m'intéresse beaucoup. Il faut faire un petit dossier sur l'inspiration. C'est très important. Très important de saisir, pour toujours en vue, pour nous, de saisir l'inspiration divine. Hein. Comprenons bien. En tant que philosophe, c'est très intéressant, parce que c'est très très important de découvrir cette dimension de la connaissance humaine. Il y a l'expérience, il y a l'inspiration. Et l'inspiration n'est pas l'expérience. C'est une expérience toute intérieure, si vous voulez. Oui, c'est une expérience toute intérieure, mais c'est plus une expérience. Dans l'expérience, on est proche du réel, de l'existant. L'inspiration vous met dans le domaine du symbole. Alors, le symbole, par définition, c'est ce qui n'existe que dans l'intelligence et l'imagination de l'homme. C'est la cause exemplaire. C'est ça. La cause exemplaire est symbolique. Et alors, c'est un domaine que vous n'avez jamais vu. Quand vous regardez une pâquerette, hein, dit, oh, ce symbole. Non, c'est une pâquerette. C'est vous qui l'enveloppez d'une réalité symbolique. C'est sûr, c'est vous qui l'enveloppez. Le symbole n'existe que dans l'intelligence du poète, que dans l'intelligence de l'homme. Autrement, on a des réalités existantes que je peux expérimenter. Mais le symbole, c'est justement le fruit de cette inspiration. Toute inspiration se termine sur une connaissance symbolique, et dont le fruit est justement le symbole, une parole symbolique, une réalité symbolique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte